Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL. Il est effectivement quasiment 18h40. Donc, l'heure de défaire le monde avec Cyprien Signy, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin, la fine équipe. L'info avec un autre regard aiguisé, inattendu jusqu'à 19h. Le menu Cyprien.
Nous en sommes abreuvés et ça ne va pas s'arranger avec la présidentielle qui arrive. Ce soir, on défait le monde, vous plonge dans les secrets de fabrication des sondages. Au menu également, Villefranche au firmament, un shérif qui fait peur et un petit Français de 6 ans qui entretient, tenez-vous bien, une correspondance avec la reine d'Angleterre. On défait le monde la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et on commence avec le son du jour.
Vous allez voir ce dernier sondage.
Le sondage IFOP.
Évidemment, notre sondage.
Il y a d'autres sondages qui sont...
Ce sondage qui va faire parler.
Eh oui, la folie sondagière s'est emparée du pays. Et à 7 mois de la présidentielle, ça ne fait que commencer. Alors, on le rappelle, un sondage, c'est une photographie de l'opinion à l'instant T. Ce n'est pas une prédiction, mais forcément, ça joue sur la campagne. On a donc choisi de s'y intéresser de plus près.
En se demandant comment travaillent les sondeurs, comment ces études d'opinion sont fabriquées et est-ce que leurs résultats sont vraiment fiables.
On a donc contacté Adélaïde Zulfi-Karpasic. Elle est directrice de BVA Opinion. Et alors attention, première règle pour un sondage, être représentatif. Et pour ça, il y a un objectif.
On essaye de reconstituer une mini-France à l'échelle d'un échantillon réduit pour pouvoir ensuite extrapoler les résultats. On se base sur les dernières données disponibles via l'INSEE, grâce au recensement. On a 52% de femmes, 48% d'hommes, et pareil sur l'âge, pareil sur les catégories socio-professionnelles, pareil sur la région, pareil sur les zones d'habitation. Il faut un échantillon de 1000 Français. Ça suffit pour avoir des tendances fiables. Il y a plusieurs manières d'interroger les Français. Les jeunes, par exemple, on a du mal à les avoir par téléphone. Donc aujourd'hui, la plupart des instituts de sondage réalisent leurs sondages par Internet.
Donc ça c'est pour la méthode. J'imagine qu'il peut y avoir des biais, que ce n'est pas si simple.
Vous imaginez bien, en fait, les instituts de sondage prennent en compte plein d'embûches potentielles, ce qui donne la fameuse marge d'erreur. Écoutez bien.
On n'est jamais sûr que les gens disent la vérité. On n'exclut pas qu'effectivement il y ait 1, 2, 3 individus qui par défiance, par exemple à l'égard des sondages, n'aient pas envie de dire la vérité. Mais globalement, la photo, elle est quand même plutôt nette. Statistiquement, il y a une petite marge d'erreur. C'est important parce que ça permet aussi parfois d'éviter les raccourcis et de montrer qu'il y a un peu de nuance et que des candidats, quand ils sont donnés à un point d'écart, par exemple, un candidat à 25%, un autre à 24%, attention, ça veut surtout dire qu'ils sont vraiment dans un mouchoir de poche et que l'un peut passer devant l'autre et inversement.
Donc ça veut dire que quand on voit des candidats à 13-14%, c'est la tendance qui compte en
oui,
fait.
Oui, en fait c'est ce qu'il faut retenir. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est quand c'est aussi serré, c'est aussi loin de l'échéance, c'est que ces candidats sont très proches. Mais il n'y a rien de plus à en tirer. Et puis il y a aussi une autre astuce qu'utilisent les sondeurs pour être au plus près de la réalité, c'est ce que l'on appelle la pondération. Vous allez l'entendre, c'est très instructif. Explication de cette pondération.
C'est un correctif tout simple, parce qu'effectivement, il y a des votes qui sont surdéclarés ou sous-déclarés, et ce ne sont pas toujours les mêmes votes à toutes les époques. Je m'explique. Moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a 20 ans, le vote pour le Front National était un vote encore très tabou. C'était avant la dédiabolisation qui a été opérée par Marine Le Pen, et donc les électeurs avaient tendance à cacher leur vote pour le Front National. Et donc, on devait surpondérer la voix des électeurs FN. Et aujourd'hui, ce qu'on observe dans les enquêtes, c'est que ce n'est plus le cas. Donc, on essaye toujours d'essayer de débusquer ce qu'il pourrait y avoir comme vote un petit peu tabou. Ce qu'on observe à l'inverse en ce moment, c'est que c'est peut-être le fait même de s'abstenir qui n'est pas complètement assumé. Il y a des gens qui n'osent pas nous dire qu'ils n'ont pas l'intention d'aller voter. C'est aussi pour ça qu'on a un petit peu du mal à estimer la participation. Ce corps électoral, il est mouvant et de plus en plus volatile.
Voilà, vous avez désormais la grille de lecture pour regarder les prochains sondages. Merci les amis.
RTL sous les radars.
Et tous les soirs, dans Défait le Monde, une info qui est passée jusqu'ici, en tout cas, inaperçue.
Et alors ce soir, une info nous a carrément interpellés. Oui. Et elle va aussi vous étonner, j'en suis sûr. On est d'accord, on est fin septembre. Fin septembre, donc. Et écoutez bien, il y a une alerte à la sécheresse en Moselle, Laurent.
Oui, la préfecture parle d'un contexte estival tardif depuis la seconde partie du mois d'août. Un temps chaud et sec est observé dans le département et selon Météo France, il a plu 3 fois moins que d'habitude sur un mois de septembre. Résultat, plusieurs secteurs du département sont touchés. Parvin Lacombe est la directrice de cabinet du préfet de la Moselle.
Les zones Moselle-Amont et Meurthe
et les zones Moselle-Aval, Orne, Niers et Seille sont placées en vigilance sécheresse. Le temps sec observé depuis quelques semaines a entraîné une baisse généralisée sur les cours d'eau que je viens de citer de leur débit.
Pour le moment, le niveau des eaux superficielles permet toujours de répondre aux besoins d'alimentation en eau de la population.
Mais alors, il y a des raisons de s'inquiéter quand même ?
Alors, Météo France rassure et rappelle que les mois de juillet et d'août ont été très pluvieux dans le département. Et pour les jours à venir, Jérôme Lecoux, ingénieur chez Météo France, nous donne les prévisions.
Alors, on va terminer le mois sous un temps sec, puisque la journée de demain va être particulièrement bien ensoleillée du côté de la Moselle. Ce qui concerne le mois d'octobre, la pluie va arriver plus franchement pour ce week-end, avec des pluies qui devraient être conséquentes pour la journée de dimanche.
En attendant, les consommateurs sont invités à faire quelques efforts. On rappelle certaines recommandations, faire fonctionner son lave-linge et son lave-vaisselle que lorsqu'ils sont pleins, ou encore préférer les douches au bain.
Ça, ça fonctionne de toute façon, sécheresse ou pas.
Toute l'année.
Ce type de recommandations. Sécheresse en Moselle, Lubaudin qui nous annonçait les premières gelées pour demain matin. Il n'y a plus de saison, la bonne dame.
Bah non, mais attendez, en Moselle au mois de septembre, je suis surpris.
Bon, effectivement. Allez,
les éditos météo sont pertinents, les gars.
C'est un vrai sujet de discussion et de débat. On continue de défaire le monde dans RTL Soir juste après ça. Avec la première info pour briller au dîner, on va parler football, shérif et KGB. Oui, oui.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller. Dans On défait le monde.
Allez, 18h47, bonne fin de journée avec RTL. On continue de défaire le monde dans RTL Soir. Et voici votre première info pour briller tout à l'heure au milieu de la famille au dîner.
Et pour la première musique. Just a good old boy. Les plus de 40 ans connaissent. Générique de la mythique série Shérif, fais-moi peur, avec les frères Duke. Bon bref, car Arthur, vous allez nous parler d'un shérif qui a fait peur au Real Madrid hier soir. Le shérif Tiraspol, club moldave, qui a donc battu le Real en Ligue des Champions.
C'est
et ce
ça,
nom,
hein.
Alors le nom improbable aussi. Hein. Shérif Tiraspol, pourquoi shérif ?
Eh bien, figurez-vous, Cyprien, que le fondateur et président du club, c'est un ancien officier de police, policier, shérif, vous voyez le truc. Il s'appelle Victor Gouchan et il se dit même qu'il a fait partie du KGB. Et le logo du club, c'est justement une étoile dorée de shérif américain.
C'est extraordinaire.
Comme celui de son actionnaire, la société Shérif, qui appartient aussi à Victor Gouchan. Et en Transdynistrie, une enclave séparatiste pro-russe, la Shérif est partout. Le foot, bien sûr, mais aussi les supermarchés, c'est Shérif. Les stations essence, pareil. Le BTP, les télécoms, le textile, même les campagnes électorales, c'est Shérif. Bref, en Transdynistrie, la Shérif fait la loi.
Comment vous dites Transnistrie?
Alors c'est compliqué.
Vous avez du mal à le dire. Hein.
Transnistrie.
Vous maîtrisez mal cette enclave pro-russe. Mais... Spasiba, Arthur, parce qu'on parle russe en Transnistrie, comme vous dites.
Ouais.
On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signy.
Et chaque soir, à cette heure-ci, la courageuse Céline Landreau prend un risque, désigne le winner, le loser, le grand gagnant, le grand perdant du jour.
Et elle a choisi un winner ce soir, car la carte de presse en bandoulière, tel un Robin des Bois médiatique, Céline a décidé ce soir de réparer une terrible injustice.
Oui, je voulais vous parler d'une petite ville de la Côte d'Azur injustement maltraitée par Netflix. Oh. Le géant américain a dévoilé le teaser de la saison 2 d'Emily in Paris. Vous savez, cette série qui fait un carton avec un Paris carte postale, une ville dans laquelle tout le monde marche avec des talons aiguilles de 12 cm, où l'on sort coiffé d'un béret, où les rues sont toujours propres. Bref, Paris, quoi.
Ouais.
Mais pour cette saison 2, l'héroïne part dans le sud. Rendez-vous à Saint-Tropez, nous dit la bande-annonce. Sauf que derrière le slogan, eh bien c'est la rade de Villefranche-sur-Mer qui est à l'écran. Pas surprenant à en croire l'adjointe au maire en charge de la promotion de la ville, Monica Logier, que j'ai appelée tout à l'heure.
En fait, Villefranche et la rade, c'est tellement beau, c'est tellement exceptionnel que quand on veut montrer Cannes, on montre Villefranche. Quand on veut montrer Saint-Tropez, on montre Villefranche. Et quand on veut montrer Monaco, on montre Villefranche. Donc, on est assez habitué, mais on est souvent un petit peu en colère quand même. Parce que Villefranche n'est jamais citée et là, il n'y a pas que la photo. Il y a aussi des plans qui sont sur Villefranche et où on fait croire que c'est Saint-Tropez. Alors après, les gens, ils se précipitent pour aller en vacances à Saint-Tropez, mais c'est un leurre.
Et alors que la série est l'une des plus regardées sur la plateforme américaine, selon elle, le leurre fonctionnera avec les touristes américains.
En marquant Emily in Paris et Saint-Tropez, ils vont pas chercher à savoir si les images sont bien Saint-Tropez. Ils vont penser que c'est Saint-Tropez. Et donc les Américains iront à Saint-Tropez. Ils vont pas aller faire la recherche pour savoir où est-ce que ça a été filmé. Ils y croient, eux, c'est les Américains. Hein. On leur montre un trophée comme ça, ils vont pas aller chercher que c'est Villefranche-sur-Mer. Sûrement pas.
Alors, la ville n'a pas encore décidé si elle allait déclarer la guerre à Netflix d'un point de vue juridique pour défendre son droit à l'image. D'autant qu'après réflexion...
Bien sûr que ça nous ferait plaisir qu'on puisse penser que c'est Villefranche-sur-Mer. Mais d'un autre côté, on est encore un petit peu préservé, peut-être. C'est un petit peu encore un secret, Villefranche-sur-Mer. C'est peut-être pas mal.
Bon, un secret qu'on a quand même un peu éventé ce soir sur l'antenne.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est ça, c'est l'hymne de Villefranche-sur-Mer, c'est Dominique Lescure. Vous connaissiez pas?
Ah ben non, je ne connaissais pas.
Voir Villefranche et mourir.
Très très belle découverte. Bon, on va lancer une pétition. Moi, je verrais bien ça. Émilie, une Villefranche.
Par exemple.
Des écrans
et on va faire
Netflix.
On défait le monde à Villefranche-sur-Mer.
Ah bah, qu'est-ce que c'est cette annonce?
Je ne sais pas, on aimerait bien.
Si
la direction nous écoute, voilà. Une petite pause et dans un instant, une nouvelle info pour briller au dîner. Un peu d'alpinisme juste après ça, tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir.
L'info pour briller. Dans On défait le monde.
Allez, RTL Soir, à vos côtés. RTL vous accompagne. On continue de défaire le monde avec la joyeuse bande. On vous offre ces cadeaux. Une nouvelle info pour briller tout à l'heure au dîner.
Et vous l'avez entendu, le Mont Blanc perd de l'altitude. Il a été mesuré à 4807 mètres aujourd'hui, comme on avait appris à l'école en fait. Et vous nous faites courir dessus ce soir, Céline. Hein,
oui, je voulais vous rappeler le record de vitesse d'ascension du toit des Alpes. Cyprien, vous venez de le dire, on parle d'un sommet à 4807 mètres et même 4810 mètres quand le record a été établi. C'était en 2013. Alors, sachez que normalement, pour un alpiniste, disons standard, il faut compter deux jours hein, pour monter et redescendre. Ouais. Eh bien, l'homme le plus rapide, le Catalan Kilian Jornet, a lui fait l'aller-retour à partir de l'église de Chamonix en 4h57 minutes et 40 secondes.
C'est incroyable.
Ouais, moins de 5 heures pour monter et redescendre 3773 mètres de dénivelé. Alors, le secret, hein, sachez-le, pour descendre plus vite, c'est de glisser sur les fesses. Il y a de la neige, évidemment.
Et de monter en courant, évidemment, si on peut.
Kylian Jornet, il est incroyable, ce garçon. Ouais.
Et je précise que deux jours, on prend un téléphérique ou un petit train pour déjà faire une partie du trajet, alors que lui, il part du centre-ville en courant.
Ouais, et il est absolument fabuleux. Je crois qu'il a des records sur plein de sommets.
Oui, c'est pas
d'ailleurs,
le seul.
L'Olympe, le Kilimanjaro, il est complètement fou. Super, très belle info pour briller. Je dois choisir, c'est ça?
Ouais.
Entre le shérif et Kylian Jornet.
Vous allez nous demander tous les jours, alors que la règle est fixée depuis le début de la saison.
Je suis pas très attentif.
C'est très compliqué comme règle.
Oui, pas de moquerie, réalisateur de mien. Match nul, parce que moi j'achète la paix des ménages.
Encore, je sais parce que j'ai été révérencieux.
Je crois.
Marche ou rêve.
Allez, tous les soirs, ça c'est le coup de fil qui fait du bien. On vous donne la parole. Et là, ce soir, tendez l'oreille parce que c'est mignon tout plein.
Ouais, ce soir, Laurent, c'est une histoire aussi incroyable que jolie que vous nous offrez.
Ouais, je voulais vous parler de l'initiative de Noé, 6 ans. Début mai, avec sa mamie Sylvie, il a décidé d'écrire à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, une lettre envoyée de Saint-Aubin-en-Bray dans l'Oise. Et Noé avait souhaité lui présenter ses condoléances, la réconforter après la mort de son époux, le prince Philippe. Il est en ligne avec nous. Bonsoir, Noé.
Bonsoir.
Alors, depuis, tu as eu des nouvelles de la reine. Raconte-nous.
En fait, mon arrière-grand-père Jean, il est mort au mois de mars et puis j'ai entendu à la télé que le prince Philippe, il était mort au mois d'avril et puis après j'ai écrit la reine d'Angleterre. Après, mon tonton, il travaillait sur les grandes voitures de la reine d'Angleterre, sur les Airbags.
Et qu'est-ce que tu lui as dit à la reine d'Angleterre dans cette lettre?
Que c'était un plaisir d'écrire à la reine. J'aime bien l'Angleterre depuis la maternelle.
Et alors, elle t'a répondu, la reine?
Oui, elle m'a répondu qu'elle était sincère, qu'elle était triste, tout seule.
Et est-ce que tu as envie, Noé, d'aller voir le palais de la reine à Londres, en Angleterre?
Oui.
Ouais, ça te donne envie, ça? Tu as déjà vu des photos?
J'ai des photos de la reine d'Angleterre, j'en ai deux.
Ouais.
Une photo qu'elle est habillée en bleu. Et une photo qu'elle est habillée avec ses médailles d'or et puis avec la couronne.
Noé, ta grand-mère Sylvie est avec nous. Sylvie, bonsoir.
Bonsoir.
C'est vous qui avez reçu la lettre à votre domicile à Saint-Aubin-en-Bray dans l'Oise. Et on imagine votre surprise lorsque vous avez vu la réponse.
Oui, on était très contents. Noé était là.
Donc c'est Nouri qui a ouvert la lettre.
Et elle vous a répondu comment, avec une carte postale ou avec un papier en tête Buckingham Palace?
Alors c'est la carte officielle de remerciement du prince Philippe avec le de Buckingham Palace.
Racontez-nous, pourquoi il est passionné de l'Angleterre, Noé, à 6 ans, ça vient d'où?
Alors Noé, quand il arrive, il a commencé l'école maternelle, ils ont appris l'anglais.
Ah d'accord.
Et son tonton travaillait dans une usine à Gournay-en-Bray, qui faisait les airbags des voitures du royaume de la reine.
Ah d'accord, c'est une histoire de famille.
Voilà. Donc tonton lui expliquait qu'il travaillait sur les voitures de la reine et tout est parti de cette chose.
Eh bien c'est une formidable histoire, très belle initiative. Merci Sylvie, merci Noé.
Merci. Goodbye.
Voilà, on vous avait prévu, c'est vraiment le coup de fil qui fait du bien. Ah, et ouais. Si comme Noé, vous avez des jolies histoires à nous raconter, on achète.
Oui, vous n'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook ou le compte Twitter d'On défait le monde.
Merci les amis d'On défait le monde, on se retrouve demain 18h40.
À demain.
Goodbye.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.